Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Indonésie condamne l'attaque israélienne contre l'Iran comme violant le droit international. La souveraineté de la langue indonésienne est au cœur des célébrations du mois de la langue 2024. Kamala Harris et Donald Trump sont en compétition serrée à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle américaine. Les pays du Commonwealth conviennent de discuter de l'héritage de l'esclavage. L'ONU est très préoccupée par les attaques aériennes d'Israël contre l'Iran. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'Indonésie a condamné l'attaque militaire israélienne contre l'Iran et a déclaré que cette action constituait une violation des sanctions internationales. Sur les réseaux sociaux du ministère indonésien des Affaires étrangères samedi, il a été déclaré que l'intensification et l'expansion du conflit montraient également le mépris total d'Israël pour le droit international. L'Indonésie demande à toutes les parties de faire preuve d'un maximum de retenue et d'éviter toute action susceptible d'accroître les tensions et de provoquer davantage d'instabilité dans la région. L'Indonésie a également souligné que l'occupation illégale du territoire palestinien par Israël était à l'origine du conflit au Moyen-Orient. L'Indonésie estime que la seule façon de créer la paix dans la région est de créer un État palestinien indépendant dans le cadre d'une solution à 2 États. C'est pourquoi l'Indonésie souligne l'importance pour le Conseil de sécurité de l'ONU d'envisager de nouvelles mesures pour mettre fin à l'occupation illégale. L'Indonésie exhorte également le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités conformément à la Charte des Nations Unies pour mettre fin, dès que possible, à toutes les formes de violence commises par Israël, y compris les actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza et les attaques contre les troupes de la FINUL au Liban. Le chef du Centre pour le développement de la langue et de la littérature, ministère de l'éducation primaire et secondaire, Ganjar Harimansyah, a déclaré que la souveraineté de la langue indonésienne est au cœur de la célébration du mois de la langue et de la littérature en 2024, qui commémore également la journée de l'engagement de la jeunesse le 28 octobre 2024. Cité par Antara à Jakarta samedi, il a déclaré que le mois de la langue et de la littérature 2024 pour le thème « Une langue intelligente pour les générations dorées » dont le but était d'inviter les gens à accroître leur intelligence linguistique indonésienne à travers divers événements pour échanger des idées, rivaliser et partager l'appréciation, en particulier pour la jeune génération qui déterminera l'avenir de la nation. Il a souligné que toute la série de célébrations du mois de la langue 2024 était adaptée à la devise promue, à savoir être fier, compétent et avancer en Indonésie. Les candidats à la présidentielle américaine Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude à moins de 2 semaines des élections générales qui détermineront le président du 5 novembre, selon un sondage de l'Emerson College publié samedi, cité par Antara à Jakarta. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête nationale ont montré un soutien égal à Trump et à Harris, chacun obtenant 49% des voix. Un graphique de l'évolution des niveaux de soutien montre que Harris et Trump sont à égalité pour la première fois depuis l'été, lorsque le vice-président sortant avait rapidement pris l'avantage et devance depuis son rival. Les personnes interrogées qui ne sont pas encore politiquement engagées et qui sont des hommes ont généralement tendance à soutenir Trump, tandis que Harris est plus populaire parmi les femmes. L'enquête a été menée les 23 et 24 octobre auprès de 1000 électeurs potentiels et la marge d'erreur est de 3 points de pourcentage. 56 membres du Commonwealth des Nations Unies convenus samedi que le moment est venu de discuter de l'héritage de la traite transatlantique des esclaves. Cité par l'AFP à Jakarta, réunis à Samoa, les dirigeants britanniques et des dizaines d'anciennes colonies ont eu de longues discussions sur l'un des aspects les plus sensibles de leur passé commun et troublé. Dans le communiqué samoan, les dirigeants du Commonwealth des Nations ont souligné les appels à une juste réparation pour la traite transatlantique des esclaves et les impacts durables de la dépossession des peuples autochtones, des accords de travail forcé et du colonialisme. Les dirigeants du Commonwealth ont également trouvé un terrain d'entente sur la question du changement climatique. Ils ont convenu d'une déclaration des mers qui reconnaît les frontières maritimes nationales actuelles malgré l'élévation continue du niveau de la mer. Ils ont également convenu de protéger au moins 30% des océans et de restaurer au moins 30% des écosystèmes marins endommagés en 2030. Les dirigeants du Commonwealth ont également convenu de nommer la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwi, au poste de nouvelle secrétaire générale. Les Nations Unies ont exprimé leur grave préoccupation face à la dernière attaque aérienne israélienne contre l'Iran et ont appelé à une fin immédiate des tensions croissantes au Moyen-Orient. À travers une déclaration officielle observée depuis Jakarta samedi, le porte-parole Stéphane Dujarric a réitéré la position du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon laquelle toutes les parties, y compris celles impliquées à Gaza et au Liban, doivent cesser toute action militaire et empêcher guerre régionale plus large. Dujarric a souligné l'importance de revenir à la diplomatie pour éviter de nouveaux conflits. Voici la mise au point de la semaine intitulée « Prabowo se concentrer sur l'équilibre pour répondre aux besoins fondamentaux du peuple dans le cabinet rouge et blanc ». Le lendemain de leur investiture en tant que président et vice-président de la République d'Indonésie pour la période 2024 à 2029, le président Prabowo Subianto et le vice-président Gibran Rakabuming Raka ont immédiatement nommé les ministres qui les aideraient leurs fonctions. Lundi, Prabowo a inauguré 48 ministres composés de 7 ministres de coordination et 41 ministres techniques ainsi que 5 fonctionnaires de niveau ministériel au Palais d'État de Jakarta. Le même jour, Prabowo Subianto a également nommé 56 vice-ministres qui épauleront les fonctions des ministres. Prabowo a nommé le cabinet qu'il dirige comme le cabinet rouge et blanc. Entre-temps, mardi, le président Prabowo Subianto a également nommé un certain nombre de responsables de l'État et d'envoyés spéciaux qui soutiendront la performance du gouvernement au cours des 5 prochaines années. Il y a sept conseillers spéciaux, sept envoyés présidentiels spéciaux, un personnel spécial et 11 chefs et chefs adjoints agence, y compris le poste de gouverneur de l'Institut de défense nationale qui a été nommé par le président. L'observateur politique de l'Université Brawijaya, Andika Mutakin, a déclaré que la composition des ministres du cabinet rouge et blanc, dirigé par le président Prabowo Subianto, représente un équilibre entre la politique, le professionnalisme et la stabilité du gouvernement. Pendant ce temps, l'observateur politique de l'Université de développement national des vétérans de Jakarta, Adli Johan Kusuma, a déclaré que la différence dans le nombre de vice-ministres dans le cabinet rouge et blanc était une forme de priorité pour le programme du président Prabowo Subianto pendant son mandat. Selon lui, les différences au niveau des vice-ministres du cabinet rouge et blanc montrent des défis différents d'un ministère à l'autre. En dehors de cela, un ministère qui compte plus de deux vice-ministres montre que cette institution est une priorité pour le président pendant son mandat. Adli a déclaré que le président Prabowo avait identifié les ministères qui connaissaient les plus gros problèmes et leur avait donc attribué plus de vice-ministres. D'autre part, Didin S. Damanhuri, économiste senior à l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, a déclaré que le gouvernement du président Prabowo Subianto a tendance à se concentrer sur divers problèmes liés à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Il a déclaré que cela ressortait des 8 programmes à Kuikuin, du document Asta Cita, axé sur les programmes sociaux, de l'éducation et de l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Avec divers programmes et objectifs à atteindre, Prabowo a également désigné plus de 100 personnes composées de ministres, de vice-ministres et de fonctionnaires de niveau ministériel pour l'assister au sein du cabinet rouge et blanc. Pour maintenir l'efficacité du travail de ce grand cabinet, Didin a déclaré qu'il fallait un système clair d'incitation et de dissuasion pour récompenser et sanctionner la performance de chaque fonctionnaire et institution dont ils sont responsables. Il a également rappelé au nouveau gouvernement les conditions économiques antérieures qui sont actuellement moins favorables en raison de l'affaiblissement du pouvoir d'achat de la population, de la diminution de la compétitivité industrielle, de l'augmentation du fardeau de la dette. Voilà la mise au point de la semaine.
Thank you.
Chers auditeurs, l'histoire d'aujourd'hui, le 27 octobre, on commence par le 27 octobre 1945, on a fondé la Société nationale d'électricité. Après que l'Indonésie a proclamé son indépendance le 17 août 1945, la compagnie d'électricité sous contrôle japonais a été saisie par des jeunes Indonésiens en septembre 1945. La compagnie d'électricité a ensuite été remise au gouvernement de la République d'Indonésie. Le 27 octobre 1945, le Bureau de l'électricité et du gaz a été créé par le président Sukarno. À cette époque, la capacité de production d'électricité n'était que de 157,5 MW. Maintenant, le 27 octobre, on célèbre la Journée nationale de l'électricité. Le 27 octobre 2005, les troubles civils en France. Les troubles civils en France ont lieu pour la première fois aux zones proches de la ville de Paris à partir du 27 octobre 2005. De violents affrontements ont eu lieu entre des centaines de jeunes immigrés et la police française. Elles ont été déclenchées par la mort de deux adolescents d'origine maghrébine à Clichy-sous-Bois, une communauté pauvre à l'est de Paris, puis se sont propagées à d'autres quartiers de la Seine-Saint-Denis. Ces troubles civils se sont ensuite rapidement étendus à d'autres régions de France. Le 3 novembre, 500 voitures ont été incendiées. Puis, le 8 novembre, le président français Jacques Chirac a déclaré l'état d'urgence dans plus de 30 villes de France après la poursuite des troubles civils dans plusieurs villes. Le 27 octobre 2007, la Journée nationale des blogueurs a été déclarée. La Journée nationale des blogueurs a été proclamée pour la première fois par la ministre de la Communication et de l'Information de la République d'Indonésie, le cabinet indonésien uni, Muhammad Nuh, lors de l'ouverture de la fête des blogueurs le 27 octobre 2007. En 2011, la fête des blogueurs s'est transformée en un événement on-off Indonesia. Depuis qu'il a changé son nom en On-Off ID, la fête des blogueurs a commencé à souligner l'importance pour les blogueurs de pouvoir gérer leur blog plus sérieusement avant de pouvoir produire quelque chose de plus utile. C'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Jika bisa pintas satu hal agar dia yang suka.
Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web de www.voinews.it. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « Un coureur indonésien champion du monde de moto supersport ». Le coureur indonésien Aldi Mahendra est officiellement devenu champion du monde Supersport 300 sur le circuit de Jerez en Espagne dimanche le 20 octobre 2024. Aldi Satya Mahendra est entré dans l'histoire en tant que premier coureur indonésien à remporter cet événement. Aldi Satya Mahendra est devenu champion du monde du World Supersport 300 ou World SSP 300 qui fait partie du championnat du monde Superbike ou WSBK. Aldi Mahendra, Timber Course, n'a besoin que de 4 points sur le circuit de Jerez en Espagne pour remporter le titre mondial World SPP 300 2024. Le coureur de 18 ans a terminé 3e de la Cour 1 du World SPP 300 derrière David Salvador et Garcia González. Aldi a ensuite terminé en 6e position dans la course 2, juste derrière son plus proche rival, à savoir le néerlandais Loris Veneman, MTM Kawasaki. Lors d'une conférence de presse avec Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, ou YIM, à Jakarta, jeudi, Aldi Satya a déclaré que la cohérence est la clé de tout. Le parcours de pilotage d'une moto sur circuit tout au long de l'année 2024 a été rempli de nombreux drames et d'une série de résultats impressionnants, dont une victoire importante à Misano et plusieurs podiums. Malgré la rude concurrence de Loris Veneman, ou MTM Kawasaki, et de Inigo Iglesias, who sport RT Motorsport by SKM Kawasaki, Aldi a réalisé des performances constantes et a remporté le World SPP 300. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bisikan hatiku tentang La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Les auditeurs de Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Yogyakarta est célèbre pour ses sites touristiques naturels, offrant de belles vues, notamment au district de Bantul. Il existe un lieu touristique naturel très enchanteur, à savoir la cascade de Tuwondo. Le nom Tuwondo vient du javanais. Le mot Tu vient de Watu, qui signifie pierre. Et Wondo vient de Ondo, qui signifie escalier. Bref, la signification du mot Tuwondo est des escaliers en pierre. Ce nom a été utilisé comme nom de la cascade car la forme de la cascade de Tuwondo ressemble à un escalier, ce qui la rend très belle et enchanteresse. Le nombre de niveaux de la cascade Tuwondo est 3. Chaque niveau a une hauteur différente, allant de 3 mètres à 5 mètres. Autour de la cascade de Tuwondo est très belle, car il y a encore beaucoup d'arbres. Il n'est donc pas surprenant que l'atmosphère de la cascade de Tuwondo soit très fraîche et agréable. Même si les installations de ce lieu touristique ne sont pas complètes, cela n'empêche pas d'en profiter. Vous pouvez vous asseoir sur les rochers environnants. La température fraîche et l'atmosphère naturelle agréable vous offriront certainement une expérience inoubliable. Le matin, vous pouvez visiter la cascade de Tuwondo pour prendre des photos, car à cette époque, l'atmosphère autour de la cascade est encore très naturelle, avec la lumière du soleil du matin, ce qui rend la vue encore plus exotique. Chers auditeurs, l'emplacement de la cascade de Tuwondo est situé au village de Lemah Abang, hameau de Banyakan 3, village de Sitimulyo, sous-district de Piyungan, district de Bantul, région spéciale de Yogyakarta, à environ 14 km du centre de la ville de Yogyakarta. Pour vous rendre dans ce lieu touristique, vous pouvez utiliser un véhicule de location car il n'y a toujours pas de transport en commun. Pendant le voyage vers cette destination touristique, les visiteurs peuvent voir des roches andésites et des roches calcaires. Bien sûr, c'est une expérience de vacances agréable. Il est recommandé de visiter ce lieu touristique saisonnier tôt le matin. Cette cascade est appelée destination touristique saisonnière car elle ne peut être appréciée que pendant la saison des pluies. Pendant la saison des pluies, le débit de la cascade sera fort et très beau, tandis que pendant la saison sèche, la cascade est sèche et presque sans eau. Bon, chers auditeurs, si vous êtes dans la région spéciale de la province de Yogyakarta en Indonésie, trouvez le temps de visiter la magnifique cascade de Tuwondo ou Grojogan de Tuwondo. Thank you.
belas malam. Ada luka yang tak bisa terpejam. Mengingatmu sedih hatiku. Pernah kita duduk menatap bintang. Rencana indah tentang masa depan hancur sudah saat kau pergi. Kata hati meminta untuk melepaskanmu dan tak lagi meratapi masa lalu. Ikhlaskan, dia sudah tak lagi mencintaimu seperti dulu. Relakan, kau pun bisa tuk bahagia walaupun tanpa. Campakanku seperti ini, aku bisa melewati malam pun berganti pagi.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est Everblaze Festival 2024. Everblaze Festival 2024 est un festival de musique à ne pas manquer à Jakarta. Ciblant la génération millénaire, l'Everblaze Festival est un festival de musique nostalgique des années 2000 qui a lieu chaque année. L'année dernière, ce festival a réuni des milliers de personnes qui voulaient voir le groupe canadien Simple Plan, le groupe de rock alternatif américain Hobastank et The Rasmus. Non seulement des musiciens internationaux, mais aussi des musiciens locaux très populaires dans les années 2000 animeront également Everblaze 2024 en novembre 2024. Sleeping with Sirens, un groupe post-hardcore américain, donnera un concert à Jakarta le 30 novembre 2024. On sait que Kellen Quinn et Orr seront l'un des line-out du Festival Everblast. En plus d'être vu sur l'affiche du Festival Everblast, cela a également été confirmé sur le site officiel du groupe, à savoir silencemusic.co, qui répertorie Jakarta dans le cadre de leur série de tournées. Outre Sleeping with Silence, plusieurs grands groupes internationaux sont également au programme, tels que Tudor Cinema Club, 3-1-1 et De Papert. Pas seulement le groupe international, ce festival présente également des groupes locaux tels que G-Rox, Rocket Rockers, Effect Rumah Kaca et plusieurs autres groupes locaux. L'Everblast Festival aura lieu le 30 novembre 2024 à Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Vivez une soirée pleine d'émotions avec des musiciens internationaux et nationaux à Everblast Festival 2024.
Rasanya tak biasa.
Ku tak biasa.
hanya hasratku saja.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.poinews.id. Maintenant, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Nabila Takia. Le nom de Nabila Takia, née le 21 novembre 2005 à Banda Aceh, est devenu connu depuis qu'elle est devenue finaliste de la 12e saison de Indonesian Idol. Au début de sa carrière dans l'industrie musicale, Nabila a sorti la chanson gagnante de Indonesian Idol intitulée Menghargai Kata Rindu. Il a maintenant sorti un autre single intitulé Terpatah Terluka, sorti le 18 octobre 2024. Cette chanson présente une collaboration spéciale avec Yovi Widianto et Arsi Widianto, deux musiciens talentueux connus pour leur œuvre romantique et émotionnelle. La chanson intitulée Terpatah Terluka porte le genre de la ballade pop avec un arrangement doux mais triste, renforçant les émotions contenues dans les paroles de la chanson. Cette chanson raconte du sentiment aimé d'aimer quelqu'un qui appartient déjà à quelqu'un d'autre, même si tous deux ont des sentiments l'un pour l'autre. Bon, chers auditeurs, voici Nabila Takia dont le titre est Terpatah Terluka. Bonne écoute!
Cause
Voice of Indonesia.
من صنعك لن أتحطم بالبسيط سأتحمل أخطائي حتى أخطئ في الصحيح Save all your tears You don't wanna waste them on me I'm not gonna be just like them This is just the way that I am Head in the clouds I do not fit into the crowd Maybe it's all making perfect sense Cause this is who I am Who I am Like them, this is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am.
Of Indonesia.
Kau bukanlah yang terbaik untukku karena kau tak bisa melumpuhkan hatiku. Kau hanya tetangga sisa dalam waktu. Yang ku lalui dan takkan ku lupakan selalu.
Thank you.
émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.